Diable à Paris de Marcel Lattès, un titre et un nom qui surgissent des limbes du temps. Qu'est-ce que le Diable à Paris? Qui est Marcel Lattès? Alors, Marcel Lattès d'abord. Ce compositeur, élève et ami d'André Messager, mérite bien mieux que l'oubli dans lequel il est tombé. Enfin, c'est un oubli assez relatif. On connaît encore de lui, sans le savoir parfois, la chanson qu'il composa pour Arletty et Acquista Pace, et le reste dans le film de 1933, Je te confie ma femme. Souvenez-vous le refrain de cette chanson.
Que dis-tu de mon décolleté?
Et pas tout.
Que dis-tu de ce grain de beauté?
Ah, trop long.
Et mon dos?
Quel morceau?
Et ma peau?
Et des os?
Et l'oreille?
Ah mon Dieu, j'ai chaud.
Aimes-tu les baisers dans le cou?
Sacrable.
Les caresses un peu partout?
Nom de Dieu.
Les mafouilles?
Nous sommes chatouilles.
Les grafouilles?
Oui, oui.
Et l'oreille? Ma grande
fille. Aimez-vous un homme fou?
On connaît aussi ses musiques de films, comme pour la Lucrèce Borgia d'Abel Gans, ou de la Bivère d'Entente Cordiale, ou encore des films avec chansons de Carlos Gardel comme Melodia de Arrabal. C'est à Nice que Lattès vit le jour, un 11 décembre de 1886. Il est né dans une famille de commerçants. Son père dirige un important magasin familial de nouveautés dans le cœur de la ville. L'enfant est sans doute éveillé à la musique par son grand-père Émile, musicien, compositeur, professeur de piano, et même patron du casino de Clermont-Ferrand au milieu du 19e siècle, avant de s'installer à Nice, la ville natale de sa mère, ville dans laquelle il fonde le magasin plus tard légué à Lucien Lattès, père de Marcel. On ne sait quasi rien de l'enfance du futur compositeur. Son père Lucien Lattès est, de par sa grande activité commerciale et sociale, devenu une personnalité niçoise marquante, à tel point que l'ex-chanteur d'opéra et compositeur niçois à la mode, Dieudonné Tagliafico, lui dédie la chanson de Marinette en 1888. Lucien Lattès se consacre par ailleurs à la direction d'associations de préparation militaire. La guerre de 70 a marqué le temps de son empreinte et Lucien fut de la bataille. La perte de l'Alsace et de la Lorraine est une blessure toujours vivace. Mais en 1901, les Lattès s'installent à Paris. Lucien Lattès a troqué le magasin de nouveautés pour la banque et les milieux d'affaires. Et en 1903, Marcel est admis au conservatoire dans le prestigieux cours de Louis Diemer, le prince du piano français. Parmi ses élèves, on compte les étoiles du piano français du XXe siècle, parmi lesquelles Édouard Rissler, Alfred Cortot, Yves Nat, Lazare Lévy, Robert Casadesus, Georges Enesco, Marcel Dupré, Alfredo Casella. Enfin, Diemer est l'une des pépites du Conservatoire national de musique de Paris. En 1906, l'année où Lattès obtient son premier prix de piano, Diemer reporte dans le registre de rapport des professeurs sur leurs élèves pour les examens. Examen du mois de janvier 1906. Première accessite en 1905, excellent élève, un jeu très léger et d'excellents doigts. Examen du mercredi 13 juin 1906, excellent élève, très intelligent, quatrième ballade Chopin ou Mephistovals de Liszt. Lattès, interrogé en 1935 sur ses débuts, raconte. Après mon premier prix de piano au Conservatoire de Paris, mes maîtres furent Caussade et Vidor. Georges Caussade, professeur de fugue et de contrepoint au Conservatoire, et Vidor, le compositeur qui a une classe de composition. Lattès continue. Je voulais être compositeur et rêvais à cette époque du prix de Rome. Au moment d'entrer en loge, une malencontreuse attaque d'appendicite me cloua sur mon lit, aux mains des chirurgiens, tous mes espoirs démolis. La surface sociale de Lucien Lattès permet au jeune Marcel de fréquenter le tout Paris du théâtre et de la musique. Via les liens de Lucien Lattès avec Albert Carré, directeur de l'Opéra Comique, Lucien Lattès fait partie des actionnaires de l'Opéra Comique. Marcel est présenté à André Messager, qui le prend sous son aile. Et Lattès fait ses débuts de compositeur sur la scène parisienne le 15 novembre 1908 à la Comédie Royale du 25 rue Caumartin, derrière l'Athénée, avec une leste fantaisie intitulée « Frésidis ». La fantaisie est interprétée notamment par Arlette Dorgère, des Folies Bergères, de la Scala et des Bouffes Parisiens, et par la future vedette de Broadway, la jeune Irène Bordoni. Et dans cette même soirée, on a créé Feu la mère de Madame de Feydeau, avec l'étoile du boulevard parisien, qui est son interprète fétiche, l'irrésistible Armande Cassive, la môme crevette de la dame de chez Maxim's. Un premier joli succès donc pour Marcel, qui se poursuit en 1910 avec Athanaïs, une légende mimo-lyrique créée à Monte-Carlo, puis à l'Opéra Comique à l'occasion d'une soirée de gala. Et à l'Opéra Comique toujours, en 1912, on présente « Il était une bergère », ravissant conte lyrique, chaleureusement accueilli d'ailleurs, parce qu'il va être joué plus de 50 fois. C'est pas mal quand même pour un compositeur d'à peine 25 ans. À l'aube de la Grande Guerre, le théâtre de l'Apollo produit « Les dandys ou la jeunesse dorée ». On peut lire le 11 février 1914 à propos des dandys dans Excelsior. La musique est pimpante et joyeuse et évoque avec entrain l'époque si pittoresque, si amusante, où Miller Larsouille était le roi des boulevards. La guerre voit Lattès intégrer l'administration du train. Dans la Gazette des classes de composition numéro 4 du 27 novembre 1916, c'est un petit journal ronéotypé qui permet de maintenir le lien entre les soldats, élèves ou anciens élèves du conservatoire. On peut lire, sous la plume d'un poilu musicien, « J'ai vu dans la Gazette que vous ne saviez rien de Marcel Lattès. Il est à... » Alors là, l'information est caviardée, bien sûr, à la SP, caviardage toujours. « Nous avons joué une œuvre de lui, hymne aux morts de la 13e division. » Marcel Lattès est connu comme le loup blanc. Le compositeur n'a pas cessé son activité créatrice, et même, on joue en 1917 deux de ses pièces vocales, au concert Colonne l'Amoureux. Les deux institutions ont été réunies pendant la guerre. On y joue donc une suite pour violon et piano, au théâtre Édouard VII. Lattès tient le piano, et c'est la célèbre violoniste Madame Jourdan-Morange qui tient la partie du violon. Et en 1919, c'est Londres qui accueille une musical comedy de Lattès, produite par l'alors très célèbre et très puissant producer Charles Cochrane. L'entregent d'André Messager, qui vient d'écrire Monsieur Beaucaire pour le Prince of Wales, n'est certainement pas étrangère à cette commande de Cochrane. La nouvelle pièce de Lattès s'appelle Maggie. Le journal La Rampe rend compte du succès londonien le 11 janvier 1920, quelques semaines après la création. Maggie, la comédie musicale de Marcel Lattès qui se joue en ce moment à l'Oxford Theatre, plaît décidément au public londonien. Le succès de cette œuvre nouvelle est de bon augure pour la carrière musicale de son auteur. Maggie est d'ailleurs fort bien mise en valeur par une mise en scène soignée et par une interprétation remarquable. Les différentes sélections pour piano, les tangos troublants et les airs favoris de cette opérette vont peut-être connaître ici la même popularité que celle que viennent d'obtenir en France les airs de Fifi, la célèbre opérette de Christine et Wilmette. 14 mois plus tard, Maggie sera présentée à Paris en version française, sous le titre de Nelly, à la Gaîté Lyrique, et ce pour 86 représentations. Tenez, justement, je vous propose un extrait de Maggie, Maggie the Movie Queen, par les Frivolités Parisiennes et Clémentine de Couture. Cesse d'écrire. Un an plus tard, en 1922, c'est le Théâtre Mogador, ouvert en 1919, qui propose Monsieur l'Amour, trois actes dont le célèbre critique Louis Laloy remarque que l'orchestration de cette nouvelle partition de Lattès est beaucoup trop soignée, beaucoup trop finie pour pouvoir supporter des clowneries vocales. On critique l'interprétation vocale de cet ouvrage à la Offenbach, où beaucoup trop d'artistes manquent de sciences musicales et de techniques de la voix. Néanmoins, l'ouvrage tient l'affiche 67 soirs de suite. Va bientôt s'annoncer le projet d'une nouvelle pièce, celle qui nous occupe, Le Diable à Paris. Le journal Excelsior ouvre la marche des annonces le 11 décembre 1924. Le Diable, tel est le titre d'une opérette de M. Marcel Lattès sur un livret de M. Robert de Flers et Francis de Croisset. De Croisset raconte à la presse à quelques heures de la première de l'ouvrage. Tout de suite, pour la partition, nous pensâmes à M. Marcel Lattès. M. André Messager, qui le tenait en haute estime, nous parlait souvent de lui, disant « Donnez-lui l'occasion de travailler, c'est un service à rendre à l'opérette française. Lattès est l'un des meilleurs musiciens modernes. L'ouvrage est prévu pour le Théâtre des Variétés, où vient de triompher Ciboulette, musique de Reynaldo Hahn, livrée de De Flers et de Croisset, et où a triomphé la divette Aimée Favart, par ailleurs la bonne amie de Flers depuis plus d'une décennie. Et c'est la vedette masculine des variétés, Max Derly, grand acteur qui fit notamment les créations majeures de Flers et Caillavet, comme Miquette et sa mère, Le Roi, Le Bois Sacré, et aussi de grandes reprises offenbachiennes, telles Orphée aux Enfers, Geneviève de Brabant, et fut le partenaire de Mistinguette pour la fameuse valse chaloupée. En juillet 1925, on annonce cette création pour 25-26, mais la concurrence est rude. Le Théâtre de la Gaîté annonce de son côté la création de L'homme qui vendit son âme au diable, opérette en quatre actes de Pierre et Serge Weber, musique de Jean Nougues, le compositeur de Covadis. On peut lire dans Aux écoutes à la mi-janvier 1926 « Satan sera à la mode cette saison. Les variétés ne doivent-elles pas monter une opérette de messieurs Robert de Flers et Francis de Croisset, musique de Marcel Lattès, dont le titre est Le diable à Paris ?» Le titre définitif est donc dévoilé. L'idée primitive de ce diable vient de Robert de Flers. Le titre de la pièce rappelle ces quatre volumes de la fin du XIXe siècle et qui font prime chez les bibliophiles. Le Diable à Paris, mœurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, publié par l'étonnant éditeur-littérateur Herzl, ouvrage qui regroupe des textes de Georges Sand, Paul Clairet, Balzac, Musset, Octave Feuillet et Eugène Sue, et bien d'autres célébrités parisiennes. Le projet original de Robert de Flers, enthousiasmé par le sujet, était de reprendre le thème de ce livre, les étonnements du diable revenant à Paris et découvrant combien la modernité a dépassé en puissance tous les sortilèges. Il était question de proposer une galerie de portraits satiriques, telle une revue, où les tableaux seraient liés entre eux par une gentille intrigue sentimentale. Au mois de mai 1926, le journal Le Siècle fait la transcription amusée, sous la plume de Paul Achard, d'une conversation avec Marcel Lattès. Un troisième auteur apparaît au générique, et une information d'importance est délivrée. « Allô Marcel Lattès ? Mais oui ? Comment se porte la partition que vous avez écrite pour l'opérette de messieurs Robert de Flers et Francis de Croisset ? Ajoutez-y Rip, et dont le titre est « Le diable à Paris ». Fort bien, merci. Elle aura pour interprète Aimée Favart et Max Derly. Et elle passera à Marigny ou aux variétés. La pièce a été faite pour les variétés. Mais comme Max Derly est engagé à Marigny, l'entente n'est pas encore faite sur le point de savoir où passera le diable à Paris. Cependant, l'écriture de la pièce n'avance pas. Le projet, lancé en décembre 1924, a été retardé par l'écriture en cours des auteurs, les Nouveaux Messieurs, créés à l'Athénée en février 1925. Et puis Francis de Croisset tombe malade, le voici loin de son encrier, et il reprend la plume une fois rétabli pour écrire en 1926 la Féerie Cingalaise, puis, avec De Flers, le Docteur Miracle. Alors, bien que les deux auteurs aient promis de se mettre à l'écriture du diable après la création des Nouveaux Messieurs et que Lattès harcèle gentiment le librettiste, le diable fait du surplace cependant que le calendrier des variétés se remplit en attendant que l'ouvrage soit achevé. Les pièces s'enchaînent sur la célèbre scène des boulevards. À Ciboulette a succédé une reprise de Tabouche d'Albert Villemetz et Maurice Yvain, puis Madame l'Archiduc d'Offenbach, avant que Jules Berry et Maud Lotti, la maîtresse d'Yves Mirande, célèbre pour son rire extravagant, ne créent Le Fruit Vert de Régis Gignoux et L'Éternel Printemps d'Henri Duvernoy. À la fin de la saison 24-25, la grande Cécile Sorel abandonne momentanément le Théâtre Français pour interpréter la Dubarry dans Maîtresse de Roi d'Armen Ephraim, à ne pas confondre avec Maîtresse de Roi que lui écrivit Sacha Guitry pour la revue Vive Paris au Casino de Paris en 1933. Et puis, à la rentrée suivante, Le Martyr de l'Obèse, adaptation scénique du célèbre roman de Henri Béraud, investit le plateau des variétés. C'est en octobre 1926 que tombe la nouvelle dans la presse. C'est Léon Volterra, directeur de Marigny, qui l'a emporté. Léon Volterra, heureux directeur du Casino de Paris, qui a racheté et rouvert Marigny après une intense restauration en 1925, avec la création française de Monsieur Beaucaire d'André Messager. Car Volterra a décidé de faire de Marigny l'opéra comique de l'opérette. Aussi, ce diable à Paris va voir finalement le jour sur la scène du Marigny, à une date de proclamation encore incertaine. Une reprise de Ciboulette triomphe à l'hiver 26-27 pour 147 représentations. À cette brillante reprise succède la création de Venise, superbe opéra comique d'Albert Villemetz et Thiers Corichepin. Et puis, entre mai et octobre, un nouveau changement apparaît. Rip s'est désisté et a disparu de l'affiche au profit d'Albert Villemetz. Volterra a suggéré d'engager Villemetz pour faire avancer la pièce. De Croisset raconte en 1927 les péripéties d'écriture du diable dans les colonnes du Figaro. « Mais je tombais malade et à peine guéri, d'autres obligations nous relancèrent. Nous avions promis à M. Quinson, qui est le directeur des Bouffes Parisiens, de faire pour M. Victor Boucher la pièce de réouverture de la Michaudière. Et il ne nous restait plus que le bref été pour écrire Les Précieuses de Genève. Cependant, la thèse s'impatientait. Il venait nous voir, tout bourdonnant de chansons. Mais réduit qu'il était à les chanter sans parole, ses yeux étaient pleins de reproches. Nous lui conseillâmes d'attendre, mais un musicien qui a une partition dans le cœur ne peut pas attendre. Il alla trouver Mademoiselle Edmé Favard, lui confia son chagrin, ce qui l'attendrit, et lui chanta ses chansons, ce qui l'enthousiasma. Ainsi, ayant mis dans son jeu la muse de l'opérette, il attendit, confiant, un destin meilleur. Il n'attendit pas longtemps. La Providence se présenta sous les auspices cordiales de M. Léon Volterra. Nous le rencontrâmes, Flers et moi, à Marigny, un soir que nous fûmes applaudir une éblouissante revue signée de Sacha Guitry et d'Albert Wilmette. « Pourquoi, nous demanda Volterra, ne pas prendre Wilmette comme collaborateur ?» Flers et moi, nous nous regardâmes en souriant. Sans nous en rien dire, nous avions chacun pensé à lui, dès les premiers couplets de la pièce, et le premier nom célèbre et charmant d'Albert Wilmette est de ceux qui ne vous laissent point hésiter. « C'est bien simple, » continua Volterra, avec sa rondeur optimiste. « Vous faites votre comédie au mois de juillet. Wilmette, pendant ce temps-là, travaille à l'opérette, et tous les trois, pour la finir, vous vous retrouvez au mois d'août. » Mais en ce mois d'octobre 1926, la pièce est toujours à l'arrêt. On entretient l'intérêt des futurs spectateurs par quelques entrefilés optimistes. Ainsi peut-on lire dans Comédia, le 7 octobre 1926, « L'opérette de messieurs De Flers, De Croisset, Wilmette et Marcel Lattès, Le Diable à Paris, va entrer la semaine prochaine en répétition au Théâtre Marigny, sous la direction de M. Paul Letombe. Mais seulement pour les ensembles, la reprise de Ciboulette s'annonçant comme fort brillante et rien ne permettant de prévoir la date à laquelle passera cette création. La distribution, à part les trois protagonistes, Mademoiselle Edmé Favard, Messieurs Max Derly et Saint-Granier, n'étant même pas définitivement arrêtée. Car en effet, la distribution est également incertaine. En décembre 1926, Max Derly a disparu de l'affiche, remplacé par Dranem. Saint-Granier, qui lui non plus ne jouera pas la pièce, n'a pas encore cédé sa place à Aimé Simon Girard. La création est en revanche annoncée pour septembre prochain. Ce serait sans compter sans les coups du sort. Robert de Flers décède au mois de juillet 1927, alors que la pièce est en cours d'écriture. De Croisset ne souhaite plus achever cet ouvrage, dont l'idée originelle vient de son collaborateur décédé. Pierre Weber rapporte que De Croisset laissa toute liberté à Wilmette pour terminer la comédie musicale, dont seul le premier acte est dû à la plume des deux vaudevillistes. Et puis, Francis De Croisset est bien plus occupé à la création de sa « Livrée de Monsieur le Comte », dont la Générale de Lune, à hasard de programmation, précède d'un jour celle de l'autre, pour laquelle il délaisse Marigny et l'opérette. Marcel Lattès est décoré de la Légion d'honneur la semaine précédant la première du Diable. Le journal Aux Écoutes publie cet entrefilé. Le compositeur Marcel Lattès, parent de M. René Renoux, ancien ministre et fils d'un président de société militaire, vient d'être décoré. À cette nouvelle, M. Reynaldo Hahn, qui a déjà entendu des airs du Diable à Paris, a dit en souriant « Comme il a bien fait de se faire décorer avant la première !» On ne prête qu'aux riches, n'est-ce pas ? Lorsque le rideau s'ouvre le 27 octobre 1927 sur le Diable à Paris, sur la scène du Marigny, c'est l'éblouissement. Volterra a réuni la distribution d'étoiles la plus incomparable du ciel théâtral parisien. En outre de la superdivette Edmé Favard, on peut applaudir Jeanne Saint-Bonnet, créatrice de Tabouche, de Wilmette et Yvain, des Trois jeunes filles nues, du même Wilmette et de Raoul Moretti, et l'année précédente, du passionnément de Hennequin, Wilmette et de l'incomparable André Messager. À leur côté, la vétérante Jeanne Chérel, adulée du public, qui pourtant affole le jour de la première, se fait emboîter. Aussi, rien moins que le grand Dranem pour interpréter le diable. Dranem, figure incontournable du café-concert d'avant-guerre, roi de la chanson idiote, un de ses plus grands succès n'est-il pas « Allez petits pois », vous vous souvenez de cette chanson peut-être ?« Allez petits pois, allez petits pois, allez petits pois, c'est un légume bien tendre, allez petits pois, allez petits pois, allez petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. » Et donc, Dranem a recommencé une nouvelle carrière flamboyante au théâtre musical grâce à Maurice Chevalier dans « Là-haut » au Bouffes Parisien en 1923, et depuis, il ne quitte plus les scènes parisiennes qui présentent de l'opérette et de la comédie musicale. C'est une personnalité hors norme, Dranem. Il a établi une complicité avec son public, il figure parmi les dieux du musical et de l'opérette française d'entre-deux-guerres. Parmi ses spécialités comiques, son incapacité à chanter bien, du moins en termes lyriques habituels. Il a une voix de café-concert, on dirait de variété maintenant, et les compositeurs prennent un grand plaisir à lui écrire des partitions vocalement difficiles. Le plaisir du public est de voir comment Dranem va chanter ce qui semble inchantable pour lui, ici interprété par Dranem lui-même. L'artiste fait sienne les compositions parfois vocalement exigeantes de ses auteurs et les sert à la perfection, même quand il n'en respecte ni les notes, ni le rythme, et se les approprie en les mariant tant à ses possibilités qu'à ses limites, et bien sûr à son humour et à son incomparable fantaisie. Écoutons Dranem pour quelques instants dans la chanson du diable intitulée Proserpine et consacrée à son épouse détestée.
Sur le dos, mon épouse, quel bonheur! Elle ne peut plus m'entendre. Je vais donc enfin pouvoir crier sans peur les jolis mots tendres que j'ai sur le cœur. Proserpine, Proserpine, vieille chipie, vieux hibou, vieille ruine, vieille fouine, vieille toupie, vieux coucou. Proserpine, Proserpine, vieille noix, vieux nougamou. Proserpine, Proserpine, je n'en peux plus d'être ton époux.
Pour jouer aux côtés de Dranem, le jeune et beau Aimé Simon Girard, vedette du théâtre et du cinéma. En 1921, il triomphe dans le ciné-roman en 12 épisodes d'Henri Gamemberger et des Trois Mousquetaires, d'après Dumas. Simon Girard est par ailleurs le fils de la grande Juliette Simon Girard, créatrice de Madame Favart, de La fille du tambour-major et de bien d'autres ouvrages de Lecoq ou de Messager. Aimé Simon Girard est pour l'occasion descendu de l'écran pour reparaître en scène. Et à ses côtés, Rému, qui complète la distribution masculine. Rému n'est pas encore le César du Marius de Pagnol, il ne le sera qu'en 29 aux variétés et en 31 au cinéma, mais sa gloire n'est déjà plus à faire. Il figure depuis 1915 au fronton de tous les théâtres parisiens et joue Guitry, Mirande, Flers et Caillavé, Paul Gaveau, enfin, il triomphe à la revue comme au théâtre parlé. Il n'est pas jusqu'au petit rôle qui n'ait été particulièrement soigné. La ravissante Suzette O'Neill, Madame Dranem à la ville depuis peu, bon, ils sont ensemble depuis 1923 et là-haut de Maurice Yvain, à l'occasion duquel Dranem, poussé par ses amis voyant l'intérêt poussé que portait Yvain pour la jolie Suzette, provoqua le compositeur en duel. Bon, le duel n'eut jamais lieu. Suzette O'Neill, donc, est la capitaine des girls. Dernier luxe, la chorégraphie a été réglée par les célèbres Dolly Sisters. Les décors signés de deux fameux décorateurs, Arnaud et Dédé, tandis que les costumes dessinés par Jean Le Seyeux, qui est par ailleurs acteur et revuiste, ont été confectionnés dans les ateliers du Casino de Paris par l'incomparable Mademoiselle Antoinette. Paul Le Tombe, grand chef de spectacle musical du temps, est à la baguette. Après ces quelques mesures de l'ouverture par l'orchestre des frivolités parisiennes, repartons en 1927. Pierre Barthélémy Gozzi, auteur et dramaturge, ex-directeur de l'opéra et de l'opéra comique, évoque la première du Diable à Paris à Marigny dans les colonnes du Figaro. Un Diable à Paris féeriquement monté par M. Volterra au Théâtre Marigny. La verve endiablée, naturellement, du spectacle, la richesse de ses costumes, pailletés ou non, mais toujours issue franchement de l'art décoratif, des grands établissements à promenoir, l'audacieuse adaptation d'une pièce lyrique à une exhibition fastueuse aux attraits, aux appâts, éblouissants et païens jusqu'à la sensualité, mais toujours avec charme et mesure, ont assuré la réussite et forcé le succès grâce à une interprétation hors ligne d'une richesse sans précédent. Et la musique, nous allions l'oublier, non pas qu'elle soit indigne de recoudre le délicieux décousu d'une trame toute rayée des coups de griffe de 2 mètres, et même de 3, puisque M. Villemès a buriné les couplets, elle est discrète, légère, moderne, souvent délicate, quand Aimé Favart la détaille, surtout au 3e acte, elle a l'air de vouloir s'effacer partout, où les yeux éblouis ignorent les joies de l'oreille. Monsieur Marcel Lattès est un jeune compositeur comblé des dons du bonheur, de la chance et de l'amabilité. Il est sympathique et fin, doué et habile, singulier et traditionnel. Les musiciens moroses l'ont tenu longtemps pour un amateur distingué quand il donnait « Il était une bergère » à l'Opéra Comique. Aujourd'hui, il intercale une épithète qui lui va mieux dans sa partition fort applaudie et qu'on pourrait fleurir de ce sous-titre « Il était une folie bergère ». Son rôle était difficile, de vieux routier s'y serait meurtri. Avec tact, avec même une distinction d'écriture qui atteste une réelle sensibilité, M. Marcel Lattès s'associe au succès général par une orchestration jolie et des trouvailles rythmées dont deux ou trois pourraient connaître la vogue et atteindre la foule. Il y a là des promesses en fleurs et des réalités musiciennes qui sont loin d'être sans valeur. Soutenu par ses parrains dramatiques, porté par une mise en évidence qui ne peut manquer de lui faire des jaloux, signe de réussite incontestable, le compositeur du Diable à Paris s'achemine gentiment vers une renommée bien parisienne. La qualité de la partition que Lattès a dédiée à son maître messager apparaît comme indiscutable. Le Temps écrit le 29 octobre dans ses colonnes. La musique de M. Marcel Lattès a beaucoup de part au succès remporté par le Diable à Paris. Le jeune compositeur se sert avec choix de la plupart des trouvailles harmoniques modernes. Son orchestration, pleine de minutie charmante, est d'une habileté supérieure. On croirait y découvrir la main d'or d'un messager ou d'un Pierre-Nez. Le duo « J'ai oublié » au début du troisième acte et le morceau de la fin « Messieurs les loups » sont des pages qui raviront tout le public. Mademoiselle Edmé Favard, gaie comme l'été, et Monsieur Aimé Simon Girard les interprètent d'ailleurs avec la finesse la plus pénétrante. Quant au journal L'Œuvre, le même jour, Raoul Brunel écrit « La musique de Monsieur Lattès ne manque pas de qualité. Ses mélodies sont faciles et bienvenues. Il a sacrifié au goût du jour pour les rythmes anglo-saxons, tout en laissant voir en mains endroits que, lorsque cette forme ne lui était pas imposée, il était capable d'écrire de jolis couplets à la manière du grand Offenbach. » Dans une chanson du Diable parlant de Proserpine, il y a, à Zarumalis, une singulière ressemblance avec le thème du final du second acte de la Proserpine de Saint-Saëns, thème qui est d'ailleurs celui non de Proserpine mais d'Angiola. Son instrumentation, où il obtient de jolis effets, avec une grande discrétion de moyens, révèle une main singulièrement experte à manier l'orchestre d'opérette. Je ne résiste pas à vous faire entendre Denis Mignien dans ses couplets de Proserpine, accompagné par l'orchestre des Frivolités parisiennes.
Je n'ai plus sur le dos mon épouse, quel bonheur. Elle ne peut plus m'entendre, m'entendre, m'entendre. Je vais donc enfin pouvoir crier sans peur les jolies mots tendres que j'ai sur le cœur. Proserpine, Proserpine, vieille chibi, vieux hibou, vieille fouine, vieille ruine, crapaud croupi, petit pou. Proserpine, Proserpine, mamie moche, maigre en mou. Je t'enquiquine, Proserpine, tu peux crever, moi je m'en fous. Quand sans dire un mot, pauvre diable, on a souffert mille et une injures, tortures, blessures. Quand toute votre vie n'a été qu'un enfer, c'est bon, je vous le jure, de chanter ces vers. Proserpine, Proserpine, vieille chibi, vieux hibou, vieille fouine, vieille ruine, crapaud croupi, petit pou. Proserpine, Proserpine, mamie moche, merlan mou. Je t'en chiquine, Proserpine, tu peux crever, moi je m'en fous. Même t'imagines pas que te le dire en français, cela me suffise, 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 pour que tu comprennes à quel point je te hais. Il faut que je te le dise aussi en anglais. Proserpine, Proserpine, you sell a witch, you damn cat, stupid goose, a loser, lose, shivering through rotten rat. Proserpine, Proserpine, crazy cream crap, dodging your top. Proserpine, Proserpine, you can shout from god to god. Mais je trouve encore que c'est bien trop charmant. La langue de Shakespeare, 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 rien pour le plaisir permet également, chérie, de te le dire aussi en allemand. Proserpine, Proserpine, alte katze, du mesa, direct à l'aube, toute taube, gänzliche, gänz, du me fa. Proserpine, Proserpine, du kamezine, kamper, grosse spine, Proserpine, mistis bourse, du prince trolle. La langue de Goethe me paraît un peu niole pour te dire ce que je pense, ce que je pense, ce que je pense. Ce n'est pas assez pour me fiche de ta fiole. Il faut que je te le danse comme un espagnol.
Il existe quelques anecdotes sur la création de ce diable à Paris à Marigny. Par exemple, Jeanne Chérel, qui est pensionnaire chez Gustave Quinson, qui est le patron des Bouffes Parisiens et de la Michaudière. Jeanne Quinson dut à De Flers de jouer la pièce. On dit qu'il avait expressément exigé dans son testament que cette grande artiste soit Madame Griveaux. À l'occasion de la création, on sait que Dranem et Rému se livrèrent une outrageuse guerre d'artistes, chacun tirant sa couverture à soi de son mieux. Un soir que Dranem chargeait par trop sa composition, déjà sur mesure, hein, on écrit déjà en énorme pour Dranem, on lui cria de la salle « au cirque ». Mais Dranem fut encore une fois irrésistible dans ce rôle de Méphistophélès de Bazar, tout comme Rému, dont la réjouissante Faconde créait un contraste désopilant avec son personnage trop rajeuni. Quand on découvre l'œuvre, on se rend compte qu'un joli parfum poétique émaille les vers de chaque chanson, comme l'air d'entrée de Marguerite, Dormir, la grâce et l'élégance des lyrics de Wilmetz, mais aussi de la rosserie et de la cruauté, on a écouté Proserpine. Marcel Lattès capture l'esprit de Wilmetz comme peu de compositeurs savent l'emprisonner pour musicalement le retranscrire. Lattès jongle musicalement avec les allitérations et les jeux de rimes, là même où Wilmetz propose de s'en amuser. Par exemple, dans le premier acte, il y a des couplets pour André qui sont écrits intégralement en vers en écho. Et il y a une parfaite cohérence des mots avec la musique. Les lyrics de la pièce sont tous très bienvenus. Il y a plein de saillies spirituelles, coquines, la fameuse chanson du loup que chantait Aimé Favart. Ou des fois c'est délicieusement trivial. Il y a des vers qui disent « Je suis comme les soupières qui sont sur le feu dès que l'on me fait sortir de mon caractère ». Et il recycle parfois quelques misogynies qu'il doit à son ami Sacha Guitry, comme dans le blues d'André au deuxième acte. Dranem, évidemment, a été très très bien servi par ses auteurs, et avec des chansons propices au numéro d'acteur, comme les couplets d'entrée du diable, et puis Le trou dans la mémoire, cette chanson Proserpine, qui est un hommage à l'ancien répertoire de Dranem à l'Eldorado. Et puis il y a ce trio du voyage, qui est un numéro absolument pétillant, qui a tout à fait à voir avec la pièce à laquelle devait succéder la création du diable à l'origine, c'est-à-dire Ciboulette, hein, où il y a le duo du voyage. Donc c'est un hommage de Lattès et des auteurs, d'une part à leur propre composition et de la part de Lattès à Reynaldo Hahn. Lattès signe avec le diable 26 numéros extrêmement soignés qui allient les habitudes jazzantes du temps et la couleur très française héritée de l'école d'André Messager qui s'égrène avec beaucoup d'esprit et beaucoup de fluidité. La partition est très attachante, elle est pleine de science et de charme indéniablement. On peut même dire que le dernier acte renchérit même en invention mélodique et en trouvaille sur les deux premiers. Marcel Lattès a continué sa carrière avec bonheur au théâtre musical et au cinéma jusqu'à la Drôle de guerre. Il est mort en 1943, raflé puis assassiné à Auschwitz par les nazis. Il était temps, avec ce diable à Paris, de redécouvrir les beautés musicales qu'il nous a léguées et que les décennies passées avaient scellées à notre regard. Je vous laisse avec Julie Mosset et l'Orchestre des Frivolités Parisiennes dans un extrait des couplets de l'Intuition, au premier acte du Diable à Paris.
Maestro.
Je suis rassurée, mais en vérité, je n'étais pas inquiète autant qu'on le suppose. Je me doutais bien que tu m'avais quittée, non pas pour quelqu'un, mais bien pour quelque chose. J'avais pressenti qu'un motif sérieux devait en effet t'obliger. Silence, ce que tu m'as